Marcelin Lagarde, La pierre sanglante de Nirbhon Sheha. De même que la société et la nature se transforment chaque jour sous la main puissante de la civilisation. Et telle gorge, sauvage et dangereuse jadis, est devenue aujourd'hui un honnête et riant vallon, où une grande route a remplacé le sentier sombre et sinueux, où le torrent en fougueuse cascade s'est changé en ruisseau continu dans un lit à berge régulière, où l'on voit sur les flancs de coteaux des terres incultivées à la place de bois épais, où l'on entend le bruit des roues de voiture, le sifflement du roulier et les conversations bruyantes des voyageurs au lieu de la voix sommaire du sentier, ou du cri des bêtes fauves, ou des oiseaux de proie. Qui se douterait, par exemple, que la charmante vallée dite de Nirbhon Sheha, qui conduit de Fjords à Asvail, a été l'un des lieux les plus sinistres de cette contrée, où le sol, cependant, offre des replis nombreux et profonds. Qui se souviendrait qu'elle a vu au XIIIe siècle un des épisodes les plus terribles de cette guerre pour la succession du Hambourg, qui eut son dévouement dans les plaines du Wolvingen, que là, le duc Jean Ier de Brabant fit un affreux massacre des troupes ardennaises commandées par Henri de Rochefort-Fenise, bâtard de la maison de Luxembourg. Comment croire que cet endroit avait non seulement la réputation d'être hanté par de mauvais esprits, c'est inévitable, mais qu'au milieu du XVIIIe siècle, il fut le repère d'une famille d'assassins dont tous les membres, au nombre de 2, 6, périrent sur le gibet. Enfin qu'il fut, en 1786, le témoin d'un drame dont les personnages, par leurs conditions et les incidents, par leur caractère étrange, sont de ceux qui ne se rencontrent bien rarement sur un pareil théâtre. Monsieur Jacob Kuhn, célèbre avocat de Cologne, qui a lui-même écrit cette relation que nous résumons simplement, avait dû quitter sa ville natale pour des raisons politiques et était venu se réfugier à Liège. Mais la faculté ayant ordonné à sa fille unique l'air pur des champs, il avait loué près d'Eyvail une modeste habitation adossée à la partie gauche de la montagne où s'ouvre la vallée dont nous venons de parler. Il n'avait pas tardé à être rejoint à Liège par un jeune Allemand nommé Rodolphe Stürmer, éperdument épris de la belle Lena, à laquelle il avait été fiancé dans leur pays. En ce moment, la sensibilité de l'âme exaltée et rêveuse des Allemands avait trouvé son expression dans les œuvres des Goethe, des Bürger, de Jean-Paul Richter, etc. Et Rodolphe, doué d'une imagination portée naturellement au merveilleux, avait fait de ses lectures le principal aliment de son esprit. Et aussi vivait-il à Liège, dans un monde fantastique, dont les deux seules réalités étaient la blonde et nuageuse image de Léna et la rubiconde figure d'un brave compatriote nommé Fritz, qui occupait les fonctions de commis dans une maison de banque de la ville. Rodolphe faisait 2 fois par semaine les 5 lieues qui séparent Liège d'Aïvil, y arrivant quelquefois au point du jour et partant souvent à 9 heures ou 10 heures du soir, car le bizarre jeune homme éprouvait, disait-il, de délicieuses sensations à parcourir la nuit les champs déserts, à vivre isolé dans sa nature vue à travers un crêpe funèbre. L'hiver, qui était survenu au milieu de ses voyages nocturnes, n'avait même pas failli renoncer. Cependant, la santé de Léna se trouva entièrement rétablie. Il avait été décidé que le mariage aurait lieu à la fin de février. L'avant-veille de la cérémonie, vers 8 heures du soir, Rodolphe, en quittant Léna pour regagner Liège, lui dit sur le seuil de la porte, dans le style de ses balades qu'il aimait tant, « À bientôt donc, ma bien-aimée, à bientôt notre mariage, à bientôt nos noces, et à nous le bonheur toujours !»« Oh, Rodolphe, répondit la jeune fille, restez, restez, vous partirez au point du jour. Pourquoi vouloir à pareille heure et par cette profonde obscurité vous aventurer seul, tout seul, pour faire plusieurs lieues, dans des chemins dangereux et solitaires. Non, non, Léna, je dois partir. Fritz, mon ami, mon frère, serait inquiet si je manquais à sa promesse d'être de retour pour le soir même à la ville. Que me fait d'ailleurs la nuit? Que ne fait son silence lugubre? Nous sommes loin encore de minuit, de l'heure des apparitions funèbres, et cependant, je ne puis craindre que ces êtres surnaturels, car je n'ai pas pour lutter contre les bandits, mon amour, mon cœur et mon pistolet, à la ceinture, et avec de pareilles armes, on peut combattre, vaillamment. Léna. Allez, à bientôt donc, ma bien-aimée, à bientôt notre mariage, à bientôt nos noces, et à nous le bonheur toujours. » Et le jeune homme déposa un baiser sur le front de sa fiancée et s'éloigna rapidement. Léna écouta quelque temps le bruit de ses pas, puis rentra en se disant « Pourvu qu'il traverse sain et sauf la vallée de la pierre sanglante !» C'était en effet une de ces sombres nuits d'hiver qui, à la campagne, jettent une mystérieuse terreur dans les âmes les moins craintives. Un moment de silence régnait d'abord dans la nature, mais peu à peu le vent s'éleva, un vent froid qui, semblable au murmure d'âmes en peine, faisait entendre un sourd gémissement en traversant les branches des arbres dépouillés de leurs feuilles et couverts de givre, un vent qui éveilla le chat-huant dans son trou, lui fit pousser des cris allongés, prolongés et agiter l'air de ses ailes, un vent qui faisait tourbillonner les nuages sans qu'aucune étoile, sans qu'aucune lueur apparût derrière eux. Parfois, il est vrai, un coin de cette sombre voûte semblait vouloir s'éclairer, mais d'une lumière jaune, terne, plus effrayante encore que l'obscurité, car elle apparaissait à la terre comme un présage sinistre, comme le reflet d'un lointain incendie. On pouvait alors augmenter, distinguer vaguement les objets, mais tous se revêtait d'une forme étrange, et les noirs nuages que le vent chassait dans le ciel faisaient bientôt disparaître cette lueur crépusculaire qui crevait par intervalles. Bientôt, Rodolphe regretta de s'être mis en route, et surtout de n'avoir pas pris le tiers des galtes au risque d'allonger le chemin. À sa gauche, des rochers qui se dressaient comme des fantômes géants. À sa droite, une côte couverte de chênes séculaires, au pied de laquelle, dans un sombre abîme, un torrent roulait avec fracas. Et devant lui, un chemin montant, sinueux, parsemé de fondrières. Et tout à coup, il entendit un bruit qui n'était ni celui d'un torrent, ni celui du hibou hurlant dans le creux des rochers, ni celui du vent gémissant dans les aurores brenues. Non, non, c'était un bruit de pas. Il écouta, le bruit approchait, de plus en plus. Il se colla contre le roc et, retenant sa respiration, pour ne pas trahir sa présence. En ce moment, la lune apparut soudain dans tout son éclat, et Rodolphe vit, à quelques pas de lui, une femme dont l'aspect le fit frissonner. Son visage ridé, son teint jaune, la cape noire qui couvrait sa tête, les mèches de cheveux gris qui se dressaient de son front comme autant de serpents, les dents ébréchées qui sortaient de sa bouche au souffle empesté, sa robe noire déguenillée lui donnait l'aspect d'une de ces hideuses sorcières écloses sous le pinceau fantastique des anciens peintres germains. Et de ses bras nus et osseux, elle serrait fortement contre sa poitrine un jeune enfant à la figure d'ange, à la chevelure blonde et bouclée, dont la bouche bâillonnée arrêtait l'expression d'une terreur qui se révélait chez lui par une énergique contorsion. La vieille fit halte devant un énorme bloc de forme bizarre, roulé de la montagne, et sur lequel, en passant par là en plein jour, Rodolphe avait souvent remarqué de nombreuses taches de sang que rien ne pouvait effacer, ce qui avait donné lieu dans la contrée à une foule de récits lugubres. Elle étendit l'enfant sur cette espèce d'autel druidique, le saisit par les cheveux, tira de son sein un long couteau et d'un seul coup lui trancha la gorge. Elle recueillit dans une coupe de sang fumant qui jaillissait à flots, puis précipita le cadavre dans les eaux du torrent qui l'entraînèrent vers la rivière. Le jeune homme vit tout cela sans pouvoir faire un mouvement. Il semblait anéanti. Les cheveux se dressaient sur son front. D'où ruisselait une sueur froide. Ses mâchoires se heurtaient convulsivement et son cœur battait avec violence. Il ne reprit quelque empire sur lui-même qu'au moment où l'affreuse créature se préparait à s'éloigner. Il saisit un des pistolets dont il était armé et voulut s'élancer sur ses traces. Mais ses jambes défaillirent et il tomba la face contre terre. Le ciel se couvrit d'un voile plus épais qu'auparavant et il entendit un éclat de rire strident que répétèrent les échos d'alentour. Il était 1 heure après minuit quand Rodolphe frappa à la porte de la maison du faubourg d'Anker, où il demeurait avec Fritz, qui avait veillé en attendant et qui descendit lui ouvrir, le sourire sur les lèvres, car c'était une bonne et franchueuse, joyeuse nature que la sienne. Notre héros, couvert de boue et se soutenant à peine, entra sans mot dire, monta péniblement l'escalier, se jeta sur une chaise sous l'empire d'une profonde émotion. « Par Méphistophélès ! » s'écria Fritz en riant et en voulant parodier le hang de son ami. « Quelle tête apocalyptique as-tu rencontrée sur ta route pour que tu sois en pareil état ? T'es pâle comme un déterré. Un feu follet t'aurait-il attiré traîtreusement dans quelque marécage? Aurais-tu, dans une sarabande, dansé avec quelque affilié de Messire Satanas? Des voleurs t'auraient-ils pris la bourse ou volé le portrait de ta belle? Ou plutôt, Celle-ci te ferait-elle défaut, et ton mariage serait-il rompu? Allons donc, dégaine ta langue, raconte-moi tes nocturnes aventures. Oh, c'est pis que tout cela, dit Rodolphe d'une voix faible et entrecoupée. Pis que tout cela, peste, c'est fort. Oui, mais tu vas me traiter encore de visionnaire si je déroule devant tes yeux l'effroyable spectacle dont j'ai été témoin dans cette maudite gorge de Florée que j'ai dû traverser. Compte toujours, dit Fritz d'un air sardonique. S'il y a lieu de te plaindre, sois sûr que je mêlerai mes lamentations aux tiennes. Mais s'il y a lieu de rire, tu me permettras, je l'espère, de me donner cette satisfaction. » Et Rodolphe raconta ce qui lui était arrivé. Et lorsqu'il eut terminé son récit, Fritz se mit à rire aux éclats. Je me doutais de quelque chose de semblable, de l'homme dit l'homme positif. Certes, il est vrai, une vilaine nuit pour courir les champs, surtout pour traverser le fond en question. Mais ton imagination, s'élançant toujours vers le surnaturel, leur a peuplé d'une foule de choses plus éblouissantes et nécessairement d'une vieille sorcière dévorant de petits enfants et buvant le sang à pleine coupe. Je te l'ai dit souvent, Rodolphe, ta cervelle s'est ressentie de ses lectures. Elles ont porté le trouble dans ton esprit, naturellement rêveur et romanesque. Et tu ne vois plus que spectre, cadavre, cimetière, apparition diabolique. Ton front est devenu aussi sombre que celui d'un vieux Quaker. Tu blasphèmes la vie, que je trouve moi une excellente chose. Tu te crois marqué fatalement de l'ongle du malheur, que sais-je. Il est vrai que toutes ces extravagances dans lesquelles tu dépasses de 1000 coudées ce fou de Wechter t'ont gagné le cœur d'une jeune fille exaltée à laquelle tu as fait croire qu'elle était l'ange dont les ailes diaphanes, je parle ton langage, tu vois, doivent chasser la fatalité de ton front pâle et maudit. Mon bon ami, dit Rodolphe, je suis depuis longtemps habitué à tes sermons et à ton plat matérialisme. J'étais persuadé d'avance que le récit fidèle de ce que j'ai vu, réellement vu, n'obtiendrait de toi qu'un rire incrédule et ironique. Tout ce qui sort du cercle banal des idées reçues est par vous autres, hommes positifs, traité de romans, de visions. Votre esprit a une porte à demi ouverte sur le monde visible. Et c'est là tout. Mais le monde invisible. Ah, il est 2 heures, interrompit vivement Fritz en saisissant la lampe. Tu sembles oublier que c'est demain que tu vas t'engager dans les liens du mariage et qu'il te reste encore bien des préparatifs à faire. Il faut que nous soyons levés de bonne heure. Alors, couchons-nous, donc, et surtout ne va pas voir encore en songe ton horrible vieille et ce qui s'ensuit. Ne pas grouper dans ton fiévreux sommeil toutes les monstruosités du monde réel et métaphysique, comme cela t'arrive souvent, mon brave ami. Après la cérémonie du mariage qui avait eu lieu dans l'église de Dieupart, M. Kult réunit dans un modeste banquet le curé, le major, 2 ou 3 autres notables de l'endroit et une dizaine d'Allemands qui habitaient Liège. La réunion fut gaie, mais les tendres sourires de Léna, les joyeuses plaisanteries de Fritz ne purent dérider le front de Rodolphe qui semblait livré à de sombres préoccupations. Il avait imposé brusquement silence à son ami chaque fois que celui-ci avait voulu faire allusion à la scène de l'avant-dernière nuit. Ce fut à peine s'il fit attention aux paroles de Fritz quand celui-ci s'écria « À la santé des nouveaux époux !» Et que la coupe de leur existence ne présente pas plus de lit que celle-ci. Et en disant cela, il vida son verre d'un seul trait. La nuit commençait à tomber quand le père de Léna tira sa montre. « Il est près de 6 heures, dit-il. Et puisque vous tenez à être à Liège aujourd'hui, mes enfants, hâtez-vous de tout arranger pour votre départ. Je vais faire atteler le carrosse. » Pendant que Rodolphe et Léna faisaient les préparatifs du voyage de noces qu'ils avaient projeté, Fritz, que le vin avait rendu de plus en plus belle humeur, conduisit ses amis au jardin. « Nous avons, dit-il, plusieurs lieux à faire à pied dans l'obscurité, et nous devons essayer de passer le temps joyeusement. Voici donc ce que je vous propose. » Comme nous sommes précisément en carnaval, j'ai fait venir des costumes et des masques. Nous allons nous travestir et nous escorterons ainsi la voiture des nouveaux mariés, au grand ébahissement des bons habitants des villages que nous aurons à traverser. Ils croiront voir une légion de démons. C'est un excellent moyen de charmer les ennuis de la route. Et tous accueillirent cette proposition par des exclamations enthousiastes. Fritz introduisit ses amis dans un réduit où il leur montra les costumes les plus bizarres, les masques les plus grimaçants. N'est-ce pas que ce serait flatter agréablement ses goûts? Il aime l'imprévu et l'extraordinaire. Nous allons lui en fournir. Prenez donc. Quant à moi, voici comment je vais m'accoutrer. « Attention !» Il passa par-dessus ses vêtements une robe noire en guenilles, se couvrit la tête d'une cape brune, sous laquelle il glissa des mèches de cheveux gris, et il posa sur sa figure un masque hideux de vieille femme, jaune ridée et dont la bouche ouverte laissait voir deux dents longues et ébréchées. Puis il se munit d'une espèce de coupe en raie rouge et d'une lanterne qu'il avait allumée. « Si ce costume n'égale point les vôtres en originalité, dit-il, soyez convaincu qu'il fera beaucoup plus d'effet sur Adolphe à cause de certains souvenirs qu'il lui rappellera. »« Quels souvenirs ?» demandèrent les plusieurs voix. « Oh, vous saurez tout à l'heure. Je vais vous laisser le plaisir de la surprise. » Mais, fut-il objecté, s'il s'agissait cependant de l'émouvoir par trop, mais il s'agit de l'obliger à rire de lui-même, de ses imaginations extravagantes, et de lui donner ainsi une leçon salutaire. Voilà tout. Alors, suivez-moi. Nous allons le précéder. Il importe que nous nous montrions que certains endroits de la vallée. » Et la bande joyeuse gagna la route sans avoir été vue de personne et arriva à la pierre sanglante derrière laquelle Fritz blottit en recommandant à ses compagnons de se cacher dans un ravin, de bien regarder ce qui allait se passer et de ne se montrer que lorsqu'il les appellerait. Peu de temps après, le carrosse, dont le cocher était devenu facilement le complice de Fritz, s'engagea péniblement dans le chemin de Nidelbolchera, le seul qui, peu praticable qu'il fût, reliait Vaille à Liège. Lorsque la voiture arriva près de la pierre sanglante, Fritz fit tout à coup son apparition à la portière. Deux cris, l'un rauque, guttural, l'autre déchirant, retentirent tout à coup. Rodolphe avait là, devant lui, cette même hideuse vieille qu'il avait rencontrée dans la nuit fatale et dont le souvenir avait assombri et empoisonné son riant séjour d'hymen. Elle tenait encore d'une main la coupe où elle avait recueilli le sang de l'enfant qui avait servi à ses conjurations, et de l'autre une lumière funèbre dont l'éclat rappelait le pâle rayon de lune qui avait éclairé cette épouvantable scène. Tout prêtait à une funeste illusion. « Ah, fille de l'enfer !» s'écria-t-il. « Tu m'échapperas pas cette fois !» Il saisit un des pistolets de voyage dont il s'était prévenu et fit feu. Fritz tourna sur lui-même et alla s'affaisser sur la pierre sanglante. Les masques, à ce bruit, s'élancèrent tous de leurs cachettes. Rodolphe, de son côté, avait sauté de la voiture en proie à un délire furieux. Et il sentit encore sa rage redoubler lorsque cette horde infernale vint l'entourer. Après avoir tiré une seconde fois sans toucher personne, il se mit à frapper de droite et de gauche avec force de la folie et du désespoir. On parvint enfin à se rendre maître de lui. Pendant que les plus vigoureux le contenaient, on releva Fritz, hélas, ce n'était plus qu'un cadavre. Alors, ce furent des exclamations de douleur et de colère. « Rodolphe !» cria-t-on de toutes parts. « C'était Fritz ! Tu as tué Fritz !» Mais Rodolphe jeta des regards fixes et hébétés sur le corps inanimé de son ami. Il semblait ne pas comprendre. Peu à peu, cependant, la conscience de la réalité parut lui revenir. Il poussa un soupir qu'on eût pris pour le râle d'un mourant et prononça d'une voix faible le nom de Fritz et tomba affaissé sur le sol. On le plaça dans la voiture à côté de Léna évanouie. On fit à l'aide de quelques branches d'arbres un brancard sur lequel on déposa le cadavre de Fritz. Et ce cortège funèbre reprit tristement le chemin des Ouailles. Les rives de l'Amblève n'ont point vu le dénouement de cette histoire. Pour en connaître la suite, nous devons franchir l'espace d'une année et nous transporter à Cologne dans une maison d'aliénés. Là, dans un de ces cabanons affectés aux fous dangereux, la relation de M. Kuhn nous fit retrouver Rodolphe et Léna. Léna, veuve avant d'avoir connu le mariage, veuve d'un vivant. Elle et les deux prêtres, le vieux prêtre qui avait guidé l'enfance de l'infortuné Rodolphe, venaient seuls le visiter dans ce triste lieu. Ce soir-là, comme il paraissait plus calme que d'habitude, elle s'approcha de lui en disant de sa voix la plus douce « Me reconnais-tu, mon bien-aimé Rodolphe? Je suis ta Léna, ta femme. » Soudain, il l'attira vers lui comme l'hyène attire dans sa cage la proie qui vient de lui être livrée. « Ah oui, je te reconnais !» s'écria-t-il. « Je te reconnais, ma belle fiancée. Oh, nous allons donc enfin passer ensemble notre nuit d'hiver. Voici le couche nuptial, » dit-il à la jeune femme tremblante en lui montrant son grabat infect. « Viens, que je te presse sur mon cœur. Viens, ma bien-aimée. » Et en effet, il l'étreignit avec une telle force que des cris déchirants s'échappèrent bientôt de la poitrine de la pauvre femme terrifiée, tandis que lui, contraint affreux, s'exhalait en paroles de bonheur et d'amour. Le gardien, qui était présent à cette scène et qui avait cru d'abord à une simple explosion de tendresse, comprit enfin l'épouvantable vérité. Il arracha Léna des bras de l'insensé. Mais il était trop tard. Elle était morte. morte étouffée. L'infortuné jeta alors les yeux sur sa victime, et sa folie parut se dissiper. Car, chose étrange, Dieu donne souvent aux fous, après leurs plus terribles accès de monomanie homicide, un éclair de raison qui leur permet de contempler toute l'étendue de leur malheur. Rodolphe se frappa le front, se tordit les bras et poussa de sourds gémissements en s'écriant « Fritz, Lena, oh, je me rappelle! Oh, je suis maudit !» On lui mit la camisole de force et on le laissa seul. Que se passa-t-il alors en lui? C'est le secret de Dieu. Mais le matin, on le trouva mort. Il s'était brisé le crâne contre les murs de son cabanon. Quant à la pierre sanglante, le lendemain du jour où la nouvelle de l'horrible événement que nous venons de raconter parvint à Ayrville, elle avait disparu. Ses débris jonchaient la vallée de Niespochera, et comme ils étaient noircis par le feu, oh, il y eut bien des commentaires.